Radio Grand Ciel présente Beat Jazz, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. C'est notre cinquième série d'émissions créée avec Patrick Durand et Gilles Secaz. Nous avons évoqué les différents rythmes de jazz, les différents styles, les grands courants et les grands noms du jazz l'an passé. Patrick Durand et Gilles Secaz ont voulu nous faire partager leur goût en matière de jazz. Aussi avons-nous écouté les morceaux les plus emblématiques du jazz. Cette année, nous partirons pour une flânerie musicale à travers les courants et les évolutions du jazz. Chers auditeurs, vous retrouverez Patrick Durand, un médecin qui s'est intéressé au jazz et qui explique le cheminement de compréhension du jazz par notre connaissance actuelle de la neurobiologie. Patrick Durand, bonjour.
Christiane Blain, bonjour.
Vous retrouverez également Gilles Secaz, qui a été très tôt marqué par la musique du guitariste Henri Crolla. Devenu lui aussi guitariste, il joue dans des formations de jazz. On peut les retrouver à Réveillon, entre autres. Et Gilles Secaz est également journaliste. Gilles Secaz, bonjour.
Bonjour, Christiane Blain.
Alors, dans cette première émission, nous allons voir comment se sont déroulées les années 50 du cool jazz au free jazz. Alors peut-être, Gilles Secaz, ce serait bien que vous évoquiez pour nous ce que nous allons voir, si je puis dire, plutôt écouter, parce que vous avez un programme qui va nous faire flâner d'année en année, c'est bien cela?
Oui, absolument, une promenade à travers les années 50, pour commencer, sachant que les années 50... évidemment, viennent après une décennie marquée dans le jazz par l'avènement du bebop.
Oui.
Ces années 50 vont voir apparaître des mouvements, des courants comme le cool jazz ou le hard bop.
Donc c'est ce que vous allez nous expliquer pendant cette année.
C'est ce que nous allons vous expliquer, nous allons essayer de vous expliquer. Le cool jazz et le jazz West Coast, c'est-à-dire le jazz qui vient de la côte ouest des États-Unis, regroupe des évolutions du bebop, moins marquées par le rythme et généralement faites par des blancs. Les Four Brothers de Jimmy Giuffre, les innovations de Lenny Tristano, le pianiste, et la collaboration entre Miles Davis et Gil Evans sont généralement regroupées sous cette bannière. Au contraire, le hard bop est plutôt un mouvement noir, visant à réintroduire plus de soul et de blues dans le bop et pour qui l'aspect rythmique est prédominant. Art Blakey, Horace Silver, Sonny Rollins y participent. D'autres personnalités inclassables émergent comme Bill Evans, Charles Mingus ou Oscar Peterson. Et pour démarrer cette flânerie autour des années 50, nous allons commencer par l'album de 1950, emblématique de ce que sera ou de ce qu'est le jazz cool, le jazz West Coast, c'est l'album de Miles Davis, Birth of the Cool. Thank you. Oui, nous venons d'écouter Godchild, un titre de l'album Birth of the Cool. Birth of the Cool est marqué par l'utilisation par Miles Davis d'un orchestre assez particulier. C'est un nonet exclusivement constitué par des cuivres. Et on trouve à l'intérieur de ce nonet des gens comme Jerry Mulligan au saxophone baryton, comme Lee Konitz au saxophone ténor, et des tubas, et puis Max Roach à la batterie, des gens qui viennent du bebop. 1950, marqué par Birth of the Cool, amène tout doucement des gens comme Oscar Peterson à prendre un petit peu la vedette. Oscar Peterson, que nous allons écouter dans un morceau qui s'appelle Pennies from Heaven, qui date de 1951, et Oscar Peterson qui venait d'un trio plutôt vocal. Cet album, 1951, a été enregistré par Oscar Peterson. Il est simplement accompagné d'Austin Roberts, qui est un contrebassiste. Nous l'écoutons.
Écoutez Oscar Peterson, pour ma part, qui est un des pianistes que je préfère, un Peterson qui déjà a une très forte accentuation des notes qu'il joue, il tape assez fort. Donc je voulais un petit peu revenir sur la présentation, Gilles, qui a été faite tout à l'heure, sur le West Coast. Et ce West Coast qui était effectivement par rapport à Memphis, par rapport à l'Amérique de l'Est, ce West Coast est plus doux et sera très bien illustré par des regroupements de soufflants. Et là, on a eu un premier exemple avec Miles, on en aura certainement plus tard dans la sélection qui a été faite, mais on est surtout sur un ensemble d'instruments, nous on dit les soufflants, instruments à vent, et qui se distingue un petit peu des versions précédentes où dans un orchestre il fallait absolument qu'il y ait une percussion avec la batterie, qui est souvent, au départ en tout cas, une contrebasse qui était très percutante et qui elle-même donnait le tempo, un piano qui était avec main droite, main gauche, le balancement, qui était aussi percutant. On est sur une musique qui était plus en West Coast, qui est quand même plus douce, plus agréable, plus romantique, je dirais. Et l'illustration, effectivement, c'est quand même Jerry Mulligan.
C'est exact. C'est une musique, je dirais pas moins nerveuse, parce qu'elle l'est quand elle le veut, mais beaucoup plus basée sur...
On est sur l'harmonie, absolument. Voilà, sur les regroupements, sur les contrepoints.
Et sur les arrangements.
Sur les arrangements. Gil Evans, oui.
Exactement. Effectivement, dans l'album Birth of the Cool, on n'a pas de contrebasse, on a un tuba qui fait office de rythmique basse. En revanche, là, dans ce que nous allons écouter, qui date de 1952, le premier album du quartet de Jerry Mulligan, précisément, on a une contrebasse, on a une batterie.
On oublie le piano.
Et on oublie le piano. Et c'est Knights of the Turntable, Jerry Mulligan, 1952.
Ce qui est magnifique, ouais, c'est une période extraordinaire pour mon goût musical. Ce qui est magnifique, c'est le contrepoint, les contre-chants. Je pense que c'est une des premières fois dans les orchestres où le contre-chant était aussi net. Je ne parle pas des arrangements des grands orchestres où il y a un soliste et un contre-chant partout l'orchestre, ou en tout cas une certaine partie de l'orchestre. Mais là, à deux, ils font un gros travail, Jerry Mulligan et le trompettiste.
Alors, parce que qui l'accompagnait là alors?
Évidemment, nous avons un trompettiste de renom aujourd'hui, mais,
oui,
mais à l'époque,
ça.
Il est plutôt inconnu. Ouais. C'est Chet Baker. Chet Baker, qui est considéré sur la côte ouest par ses pairs comme un musicien de seconde zone, autodidacte, ne sachant pas lire la musique, jouant d'oreille.
Et puis finalement, ça peut arriver de ne pas connaître la musique.
Évidemment. Évidemment, ah ouais. Les Noirs à l'origine ne connaissent pas la musique.
À l'oreille seulement.
Jouent d'oreille. Par la suite, ils apprendront la musique et sauront parfaitement tirer leur épingle du jeu. Mais à cette époque-là, Chet Baker est tout jeune et il débute. Ce qui est important, c'est que lorsqu'il participe au quartet de Jerry Mulligan, Jerry Mulligan a déjà une bonne expérience derrière lui. Et Chet Baker a joué avec Charlie Parker, entre autres. Jerry Mulligan compose les morceaux qui sont enregistrés et compose également les arrangements. Donc ces fameux contre-champs sont écrits et Chet Baker va les apprendre par cœur, j'ose dire. Et ça donne ce qu'on a entendu là.
Et c'est magnifique.
C'est magnifique, absolument. On a, avec Chet Baker, on a le batteur Chico Hamilton, et puis Bob Whitlock à la contrebasse.
Alors on notera quand même qu'il y a du swing, bien qu'il n'y ait pas de piano. Et on arrive à avoir une pulsion qui est quand même assez, assez intéressante. À propos de pulsion, je crois que le prochain morceau que vous allez écouter possède une certaine pulsion. Gilles.
Oui, alors, à propos de pulsion et à propos de piano, parce que ce que nous allons écouter, c'est Django Reinhardt, son avant-dernier enregistrement, avant son décès en mai 53. Django Reinhardt, qui ne voulait jamais entendre parler de piano, ni sa très courte vie avec un pianiste très intéressant, qu'on retrouvera par la suite, et qui s'appelle Maurice Vander. On a Pierre Michelot à la contrebasse, et Jean-Louis Vial à la batterie.
Donc ce sont des Français, je pense qu'il faut préciser.
Ce sont des Français.
Pour nos auditeurs, nous sommes passés de la côte ouest des États-Unis à la France.
Même du Canada.
Même du Canada. Et c'est un Français, et ce sont des Français, et c'est Django Reinhardt avec Nuages. Thank you.
Morceau mélancolique. Alors comment vous l'expliquez cela ?
Effectivement, on est dans la mélancolie de Django, alors que jusque-là, quand même, avec le Hot Club de France, il nous avait fait connaître des swings assez extraordinaires.
Oui, c'est exact. Django Reinhardt, en 1953, a déjà bien assimilé tout ce qui nous vient de la côte ouest des États-Unis, ce qui est venu aussi de la côte est dans les années 40. Vous avez remarqué qu'il joue de la guitare électrique. Il a un son très américain avec sa guitare. Et puis il est seul à la guitare. Il n'a pas ses accompagnateurs habituels qui, derrière lui, se manifestaient par une pompe endiablée. Là, c'est un piano tranquille, gentil. Oui.
On pourrait danser sur ce morceau.
Peut-être, on pourrait effectivement danser, mais...
Plutôt le slow. Que...
Oui, bah oui, j'imagine.
Je vous propose plutôt de danser sur un autre morceau qui date de 1954. Là, c'est une chanteuse, c'est Sarah Vaughan. Elle est accompagnée, entre autres, par le grand trompettiste Clifford Brown. Lullaby of Berlin, c'est une composition du pianiste britannique George Shearing. C'est magnifique.
Lullaby of Berlin, that's what I always hear when you sigh. Never in my word land could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, bill and coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry on my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby of Birdland, whisper low, kiss me sweet and we'll go flying high in Birdland, high in the sky up above, all because we're in love. Shut
cha ba 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 bi 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 du ti ba la ba bi ya ba 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 di ya. She ya 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 ba ba we ya de be de ya du be you be do be ya de bo du ba du be de ya. So be de ya du m shoot ya du m. Shabby dooby, shabba ba doob, dee dee ooba. And there's a weepy old willow. He really knows how to cry. That's how I'd cry in my pillow. If you should tell me farewell and goodbye, lullaby a birdland whisper low. Kiss me sweet and we'll go. Flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love.
Voilà, une magnifique Sarah Vaughan, avec, comme nous avons entendu dans les morceaux précédents, un petit contre-chant, contrepoint, qui était fait par notre trompettiste éminent.
Oui, on a vraiment l'impression que sur ce morceau, Sarah Vaughan donne la parole à chacun des musiciens, puisque chacun a droit à un tout petit chorus. On a entendu Clifford Brown, effectivement, Herbie Mann à la flûte, Paul Kunichet au saxo ténor, et puis Jimmy Jones au piano. Mais c'est surtout la grande Sarah qu'on entend.
Oui, je trouve que son chant est admirable.
Absolument, oui. Et puis, Elscat.
Oui, bien sûr. Alors, ça peut être expliqué pour nos auditeurs en quelques...
Le scat, c'est simplement l'utilisation d'onomatopées en rythme et en improvisation.
Oui.
Voilà, nous avons donc entendu un certain florilège des années 50 que nous n'avons pas terminé. Nous le reprendrons, je pense, dans la prochaine émission. N'est-ce pas, Christiane ?
Oui, nous poursuivrons cette flânerie à travers les années 50 le mois prochain. Et vous pouvez toujours nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr.